L'utilitarisme classique considère qu'une action est bonne si elle produit pour tous ceux qu'elle implique autant ou plus de bonheur, donc de bien-être, hein, le bonheur est considéré vraiment à partir de la satisfaction des intérêts, que toute autre action alternative. L'action est considérée comme mauvaise dans le cas contraire. Donc, vous voyez, une action est bonne si elle produit pour tous ceux qu'elle implique autant ou plus de bonheur. Mais il faut prendre en considération toutes les personnes qui peuvent être affectées par l'action. Donc ça, c'est le premier principe. On évalue une action à partir de ses conséquences. Deuxième principe, qui est suggéré ici déjà, c'est ce qu'il appelle l'égale considération des intérêts. L'essence du principe d'égale considération des intérêts est que, dans nos délibérations morales, nous devons accorder un poids égal aux intérêts de tous ceux qui sont concernés par nos actions. Cela veut dire que si X et Y doivent être affectés par une action et que X risque de perdre davantage que ce que Y a de chances de gagner, il vaut mieux s'abstenir d'agir. D'accord ? C'est un calcul, vous savez. Si vous allez apporter à X quelque chose par votre action, mais que ce que vous apportez à X par votre action aboutit à une soustraction pour Y plus grande que ce que vous apportez à X, et que X et Y sont affectés donc par votre action, vous comprenez, hein ? À ce moment-là, il ne faut pas agir. Parce que vous avez diminué la somme, votre action diminue la somme de bonheur total. Ah, d'ailleurs, ça ne veut rien dire, la somme de bonheur total. Ça veut dire deux fois la même chose. Bon. Alors, oui.
Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est subjectif. Par exemple, Hitler, il aurait pu penser que c'était meilleur pour tout le monde entier qu'il n'y ait plus de juifs. Et que pour lui, subjectivement, les arguments sont plus grands. Que quand on fait le calcul, c'est plus grand.
Non, parce que justement, il y a une égale considération. Ça, si vous voulez. J'essaie de prendre le point. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous pouvez dire, peut-être que si je prends les intérêts de la race aryenne, c'est plus important. Oui, mais là, ce que vous faites, c'est que vous ne mesurez pas les intérêts. Vous ne mesurez pas simplement les intérêts de quelqu'un. Vous dites que certaines personnes sont supérieures à d'autres. Et c'est ça ce que récuse Singer. Donc, vous voyez, là, c'est une manière de briser, enfin, de faire entrer dans un calcul, toujours, dans la logique de calcul, mais quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'égale considération des intérêts. Parce que lui, justement, il ne veut pas qu'on puisse dire X est plus important qu'Y. Parce qu'il est arien, parce qu'il est blanc, parce que, vous voyez, on va le voir, il est un homme. C'est une question vraiment fondamentale pour lui. C'est pour ça que c'est un principe quand même. C'est là que vous avez raison, Gaël, de dire, mais en fait, est-ce que c'est un principe? Parce que si on pense le calcul en général, ouais. Non, mais là, c'est quand même un principe qui s'impose au calcul. Égale considération des intérêts, quels que soient les êtres touchés, alors, les personnes touchées. Alors, vous allez me dire, mais bon, dès qu'il y a un être humain, je dois le considérer également. Je ne peux pas dire que ma mère aryenne vaut plus que en soi ce malade juif.
Mais je ne comprends pas comment il peut y avoir des intérêts objectifs, qui soient les mêmes pour tout le monde.
Ah, ce n'est pas les mêmes pour tout le monde, ça c'est sûr. C'est bien ça, puisque vous voyez bien que X et Y sont en conflit ici, en conflit d'intérêts. Mais alors attention, hein, ici, il ne s'agit pas d'une égalité de traitement. Vous avez compris, hein, l'égalité de traitement, c'est... Si j'ai 100 à partager, vous voyez, entre 10 personnes, je donne 10 à chacun. Ce n'est pas ça. Il dit qu'il faut donner de telle sorte qu'on maximalise le bonheur total. Donc, il se peut que je maximalise en ne le donnant pas à tous, par exemple. En ne pratiquant pas une égalité de traitement. Ça se peut. D'accord ? Je finis juste ce qui est écrit, puis après je reprends des questions. Si nous acceptons le principe de l'égale considération des intérêts, nous ne pouvons pas dire qu'il vaut mieux accomplir l'acte malgré tout parce que nous sommes davantage soucieux de Y que de X. Donc, vous voyez, ce que vous disiez, on ne peut pas être davantage soucieux de Y que de X. Le principe se réduit en fait à ceci, un intérêt est un intérêt, quelle que soit la personne dont il est l'intérêt. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout, ça veut dire, quelle que soit la personne, il faudrait dire, y compris soi-même. Y compris soi-même. Pas de, il faut envisager dans son action toutes les personnes qui peuvent être affectées. Mon action m'affecte nécessairement, ça c'est sûr, mais tous les autres. Et alors, vous voyez, par exemple, la question de l'argent que j'ai, peut-être que la meilleure manière d'en user, c'est pas en fonction de mes proches, en fonction, peut-être qu'il faut le donner, parce que Singer va dire, ça, il faut neutraliser justement la question du proche et du lointain. Vous n'avez pas de raison de vous préoccuper plus de vos proches que de ceux qui sont loin, si, dans le type d'action que vous êtes capable de porter, vous pouvez faire du bien à ceux qui sont loin et augmenter le plaisir plus que, vous voyez, si vous ne vous concentrez que sur les proches. Autrement dit, potentiellement, les 500 francs, je dois m'interroger sur ce que je peux en faire au-delà souvent des perspectives qu'on a, puisqu'il faut que je m'interroge aussi sur toutes les personnes que pourrait affecter le fait que je donne 500 francs. Donc, c'est énorme. Par exemple, dans la question des migrants, vous pouvez penser que pour Singer, il n'y a pas de privilège national. Ça ne veut pas dire que je vais déconsidérer les nationaux au profit des migrants, mais ça veut dire que dans mon calcul, je dois considérer également les nationaux et les migrants. Vous comprenez ? Il y a une égalité parfaite dans ma considération. Oui, Marion.
Mais du coup, avec ces vies violentes, est-ce qu'on risque pas de tomber dans le relativisme ? Parce qu'on se dit... c'est cool pour eux, donc nous on pense je vais donner à eux parce que c'est bien, mais finalement une autre personne va dire mais pour eux c'est mieux.
Oui, alors ça c'est très intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a à la fois un relativisme et un absolutisme dans le point de vue utilitaire. C'est ça qui fait sa force. Je n'ai pas à juger les intérêts que poursuit chacun.
Donc on juge.
Ah, chacun aura ses intérêts. Mais moi, en tant ayant un point de vue qui est un point de vue, on pourrait dire, d'égale considération, je dois faire en sorte que ce que je me propose de faire satisfasse le maximum d'intérêts, même si les intérêts sont opposés. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des intérêts meilleurs que d'autres, puisque c'est une éthique minimale. Il y a simplement le fait que je dois veiller à ce que tous les intérêts soient, dans leur diversité totale, même dans leur contrariété, soient au maximum satisfaits.
Et du coup, ça met le bazar dans la société, parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout d'accord, et qui peuvent faire des actions qui s'inversent.
Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut chercher un optimum. C'est là où il faut calculer. Oui, vous pouvez imaginer. Hein. Est-ce que je fais le mariage pour tous ou pas ? Oui, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Il y en a certains qui sont pour, il y en a d'autres qui sont contre dans la société. Mais si je dois prendre une décision, mon idée, c'est de maximiser, si vous voulez, les intérêts de tous. Alors, moi, je peux dire, de ce point de vue-là, je ne sais pas, je vous donne un raisonnement. Hein. Bon, on va léser tous ces vieux réactionnaires, cathos, etc., musulmans et tout. D'accord. Mais en même temps, je pourrais dire, eux, ils ne sont pas si lésés que ça, parce que de toute façon, ils pourront toujours se marier à l'église et être dans leur truc. Donc moi, je permets ça à tout le monde, j'augmente le plaisir des uns, les autres se fâchent, mais en fait, ils trouvent toujours leur plaisir dans leur... Et donc, au total... La satisfaction totale est plus grande. Voilà. C'est un point de vue qui essaye de... Parce que je ne vais pas valoriser une doctrine morale sur une autre non plus. Une manière de voir l'intérêt sur une autre. C'est ça qui est important. Ça se veut minimal. Oui ?
C'est Sodome et Gomorre à l'envers.
C'est Sodome et Gomorre à l'envers. Encore une fois à l'envers. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Parce que Abraham dit à Dieu, si tu trouves 40 justes, ne fais pas détruire la ville. Si
y en a 10 justes, voilà. Là, bien sûr.
En fait, c'est si j'en trouve 35 qui souffrent de mon action, je ne dois pas la faire. Si j'en trouve 20 qui souffrent de mon action, je ne dois pas la faire. Ouais. Si j'en trouve 5 qui souffrent de mon action...
Ah non, non. S'il y en a 5 qui souffrent, mais tous les autres sont contents... Et alors, là en plus, vous voyez, de ce point de vue-là, là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est Sodome, et, Sodome à l'envers, comme vous dites, c'est que D'une certaine façon, l'enjeu n'est pas de trouver un minimum de juste qui rachète les autres, c'est de faire que tout le monde soit ait le maximum de plaisir, qu'il soit sodomite ou pas. Vous comprenez ? C'est pas parce qu'il ne va pas juger, il ne va pas dire à quelqu'un « Ah, vous êtes sodomite, c'est mal. » Voilà. Maintenant, il pourrait très bien dire, malgré tout, si on doit maximiser le bonheur total, il faut penser aux générations futures qui vont d'ailleurs payer nos retraites, et que si les sodomites font moins d'enfants, vous voyez, donc peut-être que dans le calcul, il faudra pondérer davantage, soyez ceux qui font des enfants. Vous comprenez ? Bon, mais c'est ça le calcul. Le but, ce n'est pas de juger moralement, enfin comment dire, au nom de principes généraux sur la nature humaine, si c'est bien ou c'est mal ce qui se fait à Sodome. C'est de maximiser la satisfaction des intérêts, même s'ils sont divergents. D'accord ? Ève ?
Ça me paraît irréaliste, parce que cette personne-là qui fait ce calcul, elle n'est pas située. C'est-à-dire si elle est attaquée, genre dans le cas d'une guerre, elle va se sacrifier si elle considère que...
C'est un problème, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire que le point de vue éthique est déjà international chez Singer. Et s'il est déjà international, il y a un problème, c'est-à-dire que la défense de la patrie n'a pas de sens. Ou elle n'a de sens que si elle correspond à quelque chose qui est bon pour l'ensemble. D'accord ? Mais le but, ce n'est pas simplement de défendre ma patrie parce que c'est ma patrie, c'est de défendre la patrie parce que ça augmente la satisfaction globale de la planète entière.
Déjà, il faudrait être capable de le connaître, ça.
Ah bah, ça, c'est la grande question, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est ça qui est mis en avant par Singer. Alors, ça va très vite l'entraîner vers la chose suivante. Si c'est l'égale considération des intérêts en dehors de toute définition de la personne, d'emblée, la question c'est qui est une personne ? Il faut une définition. Où s'arrête la frontière ? Et notamment, va immédiatement advenir la question des animaux. C'est ça qui va être très important. Vous voulez dire quoi, Clémence ?
Si l'intérêt du plus grand nombre, ce n'est pas l'intérêt de la personne qui pose cette réflexion, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce que, selon lui, elle va dire qu'il faut que je fasse le plus gros bien pour trouver le plus grand nombre, même si ce n'est pas mon gouvernement ?
Alors, figurez-vous que cette question-là, Singer ne la porte qu'à la fin de son livre. Alors que c'est vraiment la question première, bien sûr. C'est qu'est-ce qui motive d'adopter ce point de vue d'égale considération des intérêts ? Qu'est-ce qui peut le motiver ? Donc, on va y arriver. Mais ce n'est pas du tout évident sur le coup. Oui ?
Mais c'est juste impossible d'être neutre, de pas faire une action parce qu'elle ne convient pas aux intérêts d'une autre personne.
Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas possible ? C'est ça la question. Parce que c'est ça ce que va dire Singer. Il dit...
Si la question se pose, c'est qu'il y a une action qui doit être prise, que ce soit à l'intérêt ou des intérêts ou des avantages d'une autre personne, elle doit être prise, cette action.
Elle doit être motivée. Vous voulez dire, celui qui serait dans l'égale considération des intérêts n'aurait aucun motif, voilà, si son intérêt n'est pas en jeu.
Voilà.
Ah oui, peut-être. Mais justement, c'est ça ce qui va distinguer une vraie décision éthique, qui a un point de vue justement de justice absolue selon lui, puisqu'on considère les intérêts de chacun de manière égale, d'une manière de poursuivre égoïstement simplement son propre intérêt. Voilà. Mais vous posez une question qui est fondamentale, en fait. Hein. Il va falloir que j'avance quand même un peu. Clément ?
Juste une question sur l'intérêt. Est-ce que l'agent moral ne se place pas comme juge des intérêts ? Et est-ce qu'on ne va pas demander à chacun ce qu'il en pense ? Et du coup, par exemple, dans l'exemple de la question de l'euthanasie, quelqu'un qui est très souffrant ou qui est très vieux, qui a perdu, qui souffre beaucoup, est-ce qu'on va dire, on va lui demander son avis ? Est-ce qu'on dit, c'est dans son intérêt de mourir et du coup c'est dans l'intérêt de tout le monde ?
Bien sûr. C'est dans son intérêt, c'est dans l'intérêt de ceux qui sont malades et dont il occupe le lit. Ouais. C'est dans l'intérêt. Et donc forcément, de ce point de vue-là, je pense que, oui, là, il n'y a pas photo, c'est ça qu'il faut faire. Il faut légaliser l'euthanasie. Mais ce n'est pas parce que l'euthanasie serait en elle-même un bien, mais parce que si on mesure tout le contexte et tout, on voit bien que là...
Mais donc il se place vraiment comme juge suprême de l'intérêt des autres.
Bien sûr. Ben ça, c'est la question. Non, il ne juge pas de l'intérêt. Hein, il voit la satisfaction. Il ne dit pas est-ce que ce que tu cherches ou ce que tu désires. À la limite, il pourrait même prendre en considération l'intérêt des catholiques dans cet enjeu-là. Il ne faut pas oublier que la vision de Singer est une vision pour une société pluraliste, dont le pluralisme est irréductible. Il ne s'agit pas de venir en disant vous devez tous avoir cette morale. Il s'agit de dire, bon, voilà, vous êtes musulman, vous avez ces intérêts-là. Vous, vous êtes catholique, vous avez ces intérêts-là. Vous êtes athée, vous avez ces intérêts-là. Vous êtes la gauche, vous avez ces intérêts-là. Vous avez la droite. Et moi, je dois prendre une décision qui satisfait au maximum l'ensemble des intérêts. D'accord ? Ce n'est pas du tout d'imposer. Donc, on peut dire, il est juge de la résultante, la maximisation, ça c'est sûr, mais il ne prétend pas juger la valeur des intérêts des uns et des autres. En même temps, bien sûr, le sous-entendu, c'est que son point de vue reste le vrai point de vue. Ouais, donc, bon, ça reste... Donc, vous êtes déjà en train de voir des problèmes qui sont posés par ces doctrines-là, parce que lui, il dit, je n'ai pas de doctrine morale, je les accepte toutes dans mon système, mais en même temps, mon système est précisément celui qui empêche les gens de s'entretuer, d'après lui, ou qui fait qu'il y a le moins de... Vous voyez ? Parce qu'on est face... C'est vraiment une morale qui se veut une morale minimaliste, donc pour une société pluraliste qui empêchera des choses comme des guerres de religion, où l'État ne va pas prendre parti, vous voyez, pour l'un contre l'autre. En revanche, il a déjà pris parti, effectivement, pour cette égale considération. Ça, c'est une vraie question aussi. Alors, maintenant, la question va se poser de savoir où est la frontière, parce que, après tout, si le critère, c'est le plaisir et la peine, et si les intérêts se mesurent plus, en fait, à des questions, non pas à des questions d'idées, mais à des questions de sensibilité, pourquoi s'arrêter aux humains ? Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans le jugement moral, considérer aussi n'importe quelle sensibilité, n'importe quel être apte à souffrir, ou en tout cas subir de la douleur ou du plaisir dans mon calcul moral. Et c'est là où Singer va reprendre un vieux texte de Bentham qui, justement, est une déclaration pour la libération animale. Ce qu'on appelle la libération animale, c'est de comprendre que les animaux sont sujets de droit et que nos questions morales doivent les considérer au même titre que les humains, pas à partir d'une opposition qualitative, d'accord, mais à partir d'une considération quantitative. C'est-à-dire, je dois estimer le plaisir d'un homme, mais aussi le plaisir d'une bête. Alors maintenant, bien sûr que ça va varier d'un animal, d'une espèce animale à l'autre, selon son degré de sensibilité. D'ailleurs, d'innervation, vous voyez, parce que dans la charte pour les mouvements de libération animale, on ne considère pas de la même façon un acarien et un cochon. Vous voyez ? Parce que la sensibilité du cochon est très nettement supérieure à celle de l'acarien. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas commencer à dire « Oulala, où est-ce que je marche ? Est-ce que je vais encore poser un pas ? Je risque d'écraser une fourmi ?» Enfin, certains se posent ces questions-là, mais bon. Mais la question, c'est qu'attention, il y a la fourmi, mais l'oiseau qui mange la fourmi, c'est un être supérieur quand même. Hein. Mais c'est en termes de quantité, en fonction de la sensibilité, pas en termes d'une autre nature qui serait supérieure. Vous voyez, c'est simplement la quantité. Tout le monde est à juger à partir de sa capacité à souffrir. Alors, vous voyez, le texte de Bentham dit la chose suivante. C'est un texte qui est cité par Singer dans son livre. Le jour viendra peut-être où il sera possible au reste de la création animale d'acquérir ses droits qui n'auraient jamais pu lui être refusés, sinon par la main de la tyrannie. Texte du 19e siècle, hein, début du 19e siècle. Hein. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est nullement une raison pour laquelle un être humain devrait être abandonné sans recours aux caprices d'un tourmenteur. Abolition de l'esclavage, hein, vous avez compris. Il est possible qu'on reconnaisse un jour que le nombre de jambes, la pilosité, j'aime bien la première phrase, le nombre de jambes, la pilosité de la peau ou la terminaison de l'os sacrum sont des raisons tout aussi insuffisantes d'abandonner un être sensible au même destin. Quel autre critère devrait tracer la ligne infranchissable? Est-ce la faculté de raisonner ou peut-être la faculté de discourir? Mais un cheval ou un chien adulte est, au-delà de toute comparaison, un animal plus raisonnable, mais aussi plus susceptible de relations sociales qu'un nourrisson d'un jour ou d'une semaine, ou même d'un mois. Mais supposons que la question ait été différente, qu'en résulterait-il? La question n'est pas « peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir ?» Texte absolument remarquable par le déplacement de la frontière qui s'opère. Hein. D'abord, on ne sait pas si c'est gentil, parce qu'il parle des Noirs, il parle des femmes aussi dans un autre texte, si c'est gentil pour eux de dire, en gros, puisqu'on a libéré les Noirs et les femmes, ben, il serait temps de libérer les bêtes. J'avoue que la phrase pose quand même des problèmes, vous voyez. Bon. Alors, il dit, bon, on a été aveuglés, on a cru que c'était des sous-hommes, hein, et les animaux, nous ne pouvons pas les méconnaître dans nos décisions éthiques. Et il y a quelque chose de fort ici, parce que ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Est-ce qu'on peut maltraiter un animal comme ça? Non, c'est une évidence. Vous savez, le grand penseur et théologien protestant, vous connaissez tous, Albert Schweitzer, le médecin, était en Afrique, c'est qui jouait du piano, vous savez, jusqu'à ce que sa servante arrive pour lui dire « il est minuit, docteur Schweitzer », vous connaissez ça, voilà cette expression. Disait que nous ne devions pas faire de mal même à une mouche, même à un moustique, sans un motif valable. Et que c'était déjà un acte de cruauté. Si vous tuez un moustique parce que vous pensez, vous voulez protéger votre enfant, vous tuez une mygale parce que, vous voyez, d'accord, mais si vous le faites comme ça, c'est déjà de la cruauté. Vous êtes déjà en train de supprimer un vivant. Voilà. Et donc, il y a une sorte de dignité de toute vie sensible, etc. En soi, ce n'est pas quelque chose qui pose un problème. Bon, le vrai problème, c'est le problème des dilemmes moraux. C'est-à-dire, ah bah oui, mais alors laquelle je vais favoriser? Et là, vous voyez déjà le déplacement de la frontière. Il est dit la chose suivante, un cheval adulte, mais même il devient très vite adulte, enfin, puisque vous savez bien qu'il n'y a pas cette phase de néothénie chez les autres animaux, c'est chez l'homme qui a une imperfection, une immaturité pendant très longtemps. Le cheval, le poulain se met debout après quelques heures, l'enfant d'homme beaucoup plus tard. Mais l'idée, c'est de dire, regardez, un cheval ou un chien est plus raisonnable qu'un nourrisson. Phrase qui est dit. Phrase qui est d'une confusion totale. Hein. Il a un instinct plus parfait, mais il n'est pas raisonnable. Il a son instinct, mais ce n'est pas de la raison. Vous voyez. Il ne raisonne pas. S'il raisonnait, il se tromperait aussi. Enfin, il devrait aussi interroger les autres. Il y aurait des écoles de chiens avec des sages, des professeurs et tout. Il y aurait Philocanos. Philocanis. Un truc, ils auraient une école et tout. Parce que quand vous raisonnez, forcément, vous n'avez pas tout donné d'emblée, donc vous devez réfléchir, qu'est-ce que c'est que le bien, etc. Bon bref, Bentham, il comprend pas très bien ce qu'il dit, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a cette question qu'on pourrait reprendre à un autre côté par rapport à la sensibilité. Si on fait un arrêt sur image et on prend un embryon, il est moins sensible, un embryon humain, il est moins sensible qu'un cochon. Vous êtes d'accord? Et donc, en tant que le cochon adulte est plus sensible, voyez, on pourrait dire que dans cet instant donné, il est plus digne que l'embryon lui-même. Ah oui, alors vous allez me dire la chose suivante. Mais vous voyez, c'est une vision qui est, qu'est-ce que j'ai dit? Instantanée. Le problème, c'est que l'embryon, il est appelé à grandir, etc. Donc, il faudra considérer aussi cette dimension-là. C'est-à-dire, si j'ai une approche dynamique, je vais devoir considérer que l'embryon est appelé à une sensibilité bien plus grande que le cochon. Ah, d'accord. Mais si c'est un être polyhandicapé, la question peut se poser. Hein. ne peut pas raisonner. Bon, simplement parce que vous dites il est humain, vous allez lui accorder. Mais alors, comprenez une chose, hein. Le but, ce n'est pas de mépriser les polyhandicapés pour Singer. C'est plutôt de dire, bah, si vous respectez des polyhandicapés, respectez les porcs. Respectez un chien, respectez qui, voilà, qui manifeste peut-être une vie relationnelle plus développée. Comprenez, hein, parce qu'il faut, parce que souvent on tire Singer du côté du mépris, mais en réalité, il a l'air de dire ça, mais c'est d'abord pour dire prenez soin des animaux, vous voyez. Considérez-les dans votre action morale. Donc voilà ce que va dire Singer à la suite de Bentham. Si l'on compare honnêtement le veau, j'aime bien cette phrase, honnêtement le veau, oui. Si l'on compare, d'où vient surtout cette notion d'honnêteté? Là, on retrouve la remarque que faisait Clément. Il y a quelque chose qui a l'air d'être supérieur à tout ce que dit Singer, qu'il ne thématise pas parce qu'il en appelle à l'honnêteté. Mais de quoi s'agit-il, voyez? Bon. On n'est pas dans une... Toutes ces morales minimalistes, souvent, ont un arrière-plan métaphysique qu'elles ne veulent pas avouer. Et là, vous voyez, il faut comparer honnêtement. D'accord, comparons alors. Si l'on compare honnêtement, on est dans un calcul comparatif, hein. Si l'on compare honnêtement le veau, le cochon et le poulet avec le fœtus humain, selon des critères moralement significatifs tels que la rationalité, la conscience de soi, etc. Là encore, il y a confusion sur la nature de la rationalité, mais bon. Ça veut dire être capable d'actions qui sont cohérentes et suffisantes pour la survie, peut-être c'est ça qui veut dire, rationalité, je ne sais pas ce qu'il veut. Alors, le veau, le cochon et le poulet viennent bien avant le fœtus, quel que soit l'état d'avancement de la grossesse. Ouais. Ça provoquait un choc. Car même un poisson, le monde de Nemo là, car même un poisson manifeste davantage de signes de conscience qu'un fœtus de moins de 3 mois. Oui, je comprends, Nazareth, que ça vous trouble. Mais on va quand même essayer d'avancer. Alors écoutez, un bébé d'une semaine n'est pas un être rationnel conscient de soi, et il existe de nombreux animaux non humains dont la rationalité, la conscience de soi, l'éveil et, alors c'est là ce qui veut, c'est le point important, la capacité de sentir, notamment, dépasse ceux d'un bébé humain âgé d'une semaine ou d'un mois. Si le fœtus n'a pas droit à la vie comme une personne, le nouveau-né non plus. Ah oui, parce que nouveau-né, c'est pas tellement mieux. Et la vie d'un nouveau-né a moins de valeur pour celui-ci que la vie d'un cochon, d'un chien, d'un chimpanzé n'en a pour chacun de ces animaux non humains. Vous remarquerez, hein, vous avez vu la phrase qui est décisive ici, c'est pas la valeur en soi qui est en train de penser, mais c'est la valeur pour celui-ci. Parce que, comme, d'après lui, le nouveau-né est moins conscient que la bête adulte, à ce moment-là, il prend moins conscience du préjudice qu'il subit, il souffre moins, etc. Et à cause de ça, ça a moins de valeur. Il ne dit pas que ça n'a pas de valeur, hein, mais il est en train de faire une échelle des valeurs où il est capable de tout quantifier à partir de la capacité de sentir. Oui ?
Si on a le choix entre tuer quelqu'un qui est sous anesthésie générale, qui est en train, par exemple, de se faire opérer un poisson rouge, du coup, on aurait intérêt à tuer la personne sous anesthésie.
Non, mais c'est là où il y a un problème dans le raisonnement. C'est que là, il dit... À moins de valeur, il faudrait dire, c'est pour ça, dans l'instant T où on fait la comparaison, mais il faut considérer, voilà, le dynamisme, c'est ça qui manque. Mais il le dit, hein, aussi, hein, cette question du dynamisme, il le pense. Vous allez voir d'ailleurs dans la suite, oui.
Ce qui est si fun depuis le début, c'est que j'ai l'impression qu'ils auraient pu quantifier du qualitatif. J'essaie de faire des mathématiques, mais
bien sûr. Bah, c'est le gros problème qui se pose ici. Qu'est-ce qu'on peut quantifier? Est-ce qu'on peut mesurer, finalement, les intérêts de chacun? Ça, c'est... Et leur satisfaction. Ça, c'est une grande question. Hein. On va aller plus loin. Donc, alors, bien sûr qu'à cause de ça, il peut y avoir des circonstances où l'infanticide est légitime, d'après Singer. Voilà ce qu'il va dire. Hein. Quand la mort d'un enfant handicapé conduit à la naissance d'un autre enfant dont les chances de bonheur sont meilleures, j'aime beaucoup cette phrase, la quantité totale de bonheur est plus grande si l'enfant handicapé est tué. Oui, puisqu'on considère dans l'action le bonheur total. Si vous avez un enfant handicapé et qu'il vous empêche d'avoir d'autres enfants, parce que vous devez vous en occuper tout le temps, etc., en réalité, vous portez préjudice à une... Alors, comme les enfants ne sont pas là, vous portez préjudice à personne. C'est ça qui est con dans le raisonnement. Mais en réalité, il dit, malgré tout, si en ayant des enfants qui ont une aptitude au bonheur plus grande, bah, vous voulez leur donner la vie, etc., vous allez augmenter le bonheur général. Et donc, il vaut mieux supprimer le handicapé et laisser apparaître ces autres enfants qui ont de plus grandes, j'aime bien cette phrase, chances de bonheur, de meilleures chances de bonheur. Bon, oui ? C'est la capacité à avoir des intérêts satisfaits. Vous savez qu'on pourrait presque renverser cela en disant il est plus facile de satisfaire les intérêts d'un polyhandicapé que de satisfaire les intérêts d'un adolescent qui rêve d'être une superstar, de tout ça. Alors là, mais, peut-être que... Bon, déjà, si vous commencez à vraiment considérer le calcul, vous vous rendez compte que c'est quand même étrange. Attention, hein, pour moi, c'est très symptomatique de penser que l'homme qui a écrit ça enseigne l'éthique dans les plus grandes universités. C'est plutôt ça qu'il faut réfléchir. Parce que là, on est face à une énigme quand même. Hein. Oui.
Dans ce cas précis, il ne pense pas du tout aux conséquences. Parce que, par exemple, une maman qui avorte d'un bébé, il ne pense pas du tout aux conséquences psychologiques.
Pour la mère elle-même, bien sûr. Alors, si vous dites qu'il y a des conséquences psychologiques, la question, c'est quelles sont les chances. Mais attention, l'objection que vous faites ne sort pas de l'éthique singerienne. Vous êtes simplement en train de lui dire, écoute, Peter, si vous le tutoyez, Marie, mais, de toute façon, en anglais, vous êtes obligé de tutoyer. Alors vous lui dites, écoute Peter, c'est que vous savez dans les films anglais quand il est double en français, la grande question c'est quand est-ce qu'on passe du vouvoiement au tutoiement. Et c'est généralement après qu'il a couché avec la fille. Enfin, je préjuge rien de vos relations avec Peter Singer, hein, Marion, mais... Alors, cela pour vous dire que... Donc vous lui dites, écoute Peter... Ton système est bon, mais tu dois prendre en considération aussi ces aspects-là. C'est tout ce que vous êtes en train de lui dire. Vous n'êtes pas en train de lui dire, ton système, il ne tient pas la route. Vous êtes en train de lui dire, c'est bien, mais il faut quand même considérer donc, le dynamisme, le bien futur, puisqu'il le considère ici, le bien futur, vous voyez, face à l'enfant handicapé. Donc à ce moment-là, vous allez dire, bah, le fœtus, c'est quand même supérieur au cochon relativement à la capacité à sentir futur qu'il y aura, et même au bien qu'il procure à ses parents, qui est incomparablement supérieur à une tranche de jambon. Bon. Bref. Non, mais il est, je dis ça, mais c'est pas vrai parce qu'il est végétarien. Il est favorable à l'infanticide dans certaines circonstances, mais il est plutôt végétarien. Voilà. Pour différentes raisons, hein. Mais le végétarisme est un calcul qui est assez intéressant, assez légitime, puisqu'il faut 16 kilos de céréales pour faire un kilo de viande. Si tout le monde mange de la viande, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut plus nourrir la totalité de la planète, qu'on va faire disparaître des cultures céréalières vivrières pour des personnes afin d'alimenter nos cochons. Donc, vous voyez, il y a des motifs derrière ça. C'est pas n'importe quoi. Mais vous voyez, la force, c'est que, comme on est à une époque aussi d'écologie, d'interdépendance, etc., la force de Singer, c'est de dire, vous devez tout considérer. Vous devez considérer l'interdépendance de tout ce que vous êtes en train de faire, etc. C'est pour ça que ça marche. Il y a le calcul, mais il y a aussi cette idée d'interdépendance, vous voyez, qui est très fort. Donc voilà, alors il est contre le sentimentalisme, bien sûr, il va dire, penser que la vie des nourrissons a une valeur particulière parce qu'ils sont petits et mignons s'accorde bien avec l'idée qu'un bébé phoque mérite, avec sa douce fourrure blanche et ses grands yeux ronds, davantage de protection qu'un gorille à qui ses attributs font défaut. La vulnérabilité ou l'innocence du nourrisson homo sapiens ne représente pas une raison de le préférer au fœtus homo sapiens, qui est également vulnérable et innocent. Vous voyez, c'est fort, hein, cette phrase. Il dit, attention, parce que le fœtus, il n'a pas une jolie frimousse, comme dans toutes les publicités, vous ne lui accordez pas le même traitement qu'au nourrisson. Vous voyez, hein, ne croyez pas que Singer, vous pouvez l'assimiler à des gens qui seraient, je ne sais pas moi, pro-avortement, pas du tout, parce qu'il dit, vous devez tout considérer, faites attention. Un fœtus a autant de dignité qu'un nourrisson s'il a la même capacité de sentir. D'accord ? Et ce n'est pas parce qu'il est plus mignon. Nous, on est dans une époque, vous voyez, de sentimentalisme où le fœtus, comme on ne le voit pas, ben on s'en fout. Mais il y a plein de photos de jolis bébés, vous voyez. Et c'est les mêmes qui promeuvent les photos des bébés mignons qui, après, promeuvent aussi l'avortement, vous voyez. Donc lui, il est en train de dire, faites attention, ça ne marche pas, votre truc. Mais il va plus loin. Il dit, il ne faut pas les préférer même aux rats de laboratoire qui sont innocents, exactement au même sens que les nourrissons humains, et comparés à la force de l'expérimentateur, également vulnérables. Si nous pouvons laisser de côté ces aspects de l'infanticide, émotionnellement touchants mais sans aucune pertinence, nous voyons que les motifs qui interdisent de tuer les personnes ne peuvent être appliqués aux nouveau-nés. Bon, alors, voilà, parce que c'est la capacité de sentir qui prime. Mais il y a la question du dynamisme. Alors, on arrive maintenant au vrai problème. C'est qu'en fait, dans tout ce système-là, Singer ne dit pas, et c'est la chose que vous avez tout de suite vue, pourquoi agir de la sorte ? Pourquoi considérer également les intérêts ? Qu'est-ce qui va me motiver ? Parce que finalement, c'est une éthique qui est complètement non située, comme l'a dit Ève. On pourrait dire désincarné, c'est ce que suggérait Nazareth, c'est-à-dire au-dessus de, vous voyez, de toute condition humaine. Et alors, qu'est-ce qui me pousse à agir comme ça? Et il va poser la question du psychopathe, il va dire, ben voilà, si quelqu'un a un même intérêt à ce que les autres souffrent, à quoi ça sert que je fasse mon discours? Quel trait peut-on tirer de la nature humaine pour démontrer la coïncidence de l'éthique et de l'intérêt propre? Parce que, vous voyez, le gros problème après, ça va être d'articuler mon intérêt avec l'égale considération des intérêts. Et à la limite, si je montre que l'égale considération des intérêts est dans mon intérêt, mais ça veut dire que mon intérêt est plus important que l'égale considération, parce que c'est le fondement de l'égale considération des intérêts. Oui, mais alors, oui, il y a un problème. Il est piégé, là. Il ne sait plus quoi faire. Alors, il va parler de voilà, au nom de quoi, en ce cas, refuser la vie d'un psychopathe, mais de rechef, est-il tout à fait vrai qu'en dehors de la religion, la vie est dépourvue de sens? Il est mal, quoi. Il ne sait plus quoi dire. Alors, il va trouver un truc assez étonnant. Il va dire, voilà ce qu'il fait. Il va retrouver une sorte de dignité maximaliste dans son discours. Nous commençons à voir comment l'éthique s'insère dans la question du sens de l'existence. Si nous sommes à la recherche d'un objectif plus large que celui de nos intérêts personnels, de quelque chose qui nous permette de donner à notre existence un sens qui dépasse les limites étroites de notre conscience individuelle, alors une solution évidente se profile, celle d'adopter le point de vue éthique. Tout ça est au conditionnel. Celui-ci nous demande de passer d'un point de vue individuel à celui d'un spectateur impartial. Vous voyez, cette position de spectateur impartial. Considérer les choses du point de vue éthique est une façon de transcender nos préoccupations égocentriques et de nous identifier au point de vue le plus objectif, ou pour citer un auteur américain, Sigwick, au point de vue de l'univers. Autrement dit, tout ce qu'il nous a montré, le conséquentialisme, l'égale considération des intérêts, n'est possible qu'à un spectateur impartial, de telle sorte que le vrai sujet de l'éthique est un spectateur impartial. Et qu'est-ce qui le motive à adopter ce point de vue? C'est que tout d'un coup, il s'identifie à l'univers. Il est plus grand que son point de vue individuel. Son intérêt propre, c'est d'élargir sa conscience à une dimension collective. Mais en même temps, vous voyez, il ne peut pas le poser comme quelque chose d'absolu, parce que s'il le posait comme « vous devez tous, tout homme doit adopter ce point de vue-là de l'univers », tout d'un coup, son éthique minimaliste devient une éthique maximaliste. Et donc là, il est très embarrassé. En réalité, il y a dans cet effort éthique quelque chose qui advient au final, qui est quelque chose comme qu'on pourrait appeler une paralysie de l'action morale. Parce que, un, qui est le sujet de l'éthique singerienne? Un spectateur impartial. Mais pourquoi un spectateur impartial interviendrait? Qu'est-ce qui motive le fait qu'il intervienne? Ce qui nous pousse à intervenir, c'est qu'on est motivé, qu'on est attaché, qu'on est justement situé, qu'on est impliqué. Et donc, il y a cette ambiguïté d'une implication qui n'est pas une implication, vous voyez. Le fait que, dans l'action morale, nous commencions par nous soucier de nos proches, c'est la garantie de la vitalité de cette action morale. Parce que si je commence à mettre à équivalence les proches et les lointains, qu'est-ce qui va me pousser à agir ? Je suis pas, j'ai pas d'attachement. Vous voyez ? Au fond, il en appelle à un tel détachement qu'on ne voit même pas ce qui nous pousserait à agir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le sujet de l'éthique singerienne, qui adopte ce point de vue désincarné, est en fait moins un être humain qu'une sorte d'énorme computer. Ça, c'est la première chose, hein, la deuxième chose qu'on pourrait dire. Une sorte d'ordinateur quasi-divin et qui en plus implique, alors cet ordinateur, la capacité de mesurer quantitativement les intérêts de chacun et leur satisfaction. Alors ça, je ne sais pas comment il fait, il a un thermomètre, il a un truc spécial, quoi. Ça, c'est la troisième chose. Mais surtout, la chose la plus énorme, c'est qu'il est capable, si c'est une éthique conséquentialiste, d'anticiper les conséquences d'un acte. Comment est-ce qu'on peut anticiper toutes les conséquences d'un acte ? Si vous mesurez un acte à ses conséquences, le bien et le mal se mélangent inévitablement. Par exemple, vous pourriez dire, c'est bien ce qu'a fait Hitler, parce qu'au final, on en a fini avec une certaine forme d'antisémitisme. On pourrait dire, il y a eu des conséquences positives, tout le monde présente comme l'horreur emblématique de toutes les horreurs qui ont pu se passer dans l'humanité, c'est la Shoah. Donc tout le monde se sent touché par ça. Et peut dire, on dit, bravo Hitler, ah, c'est vachement bien ce que tu as fait. Les conséquences sont bonnes, tu n'y avais pas pensé, mais voilà. Est-ce que ça ne se mélange pas tout à la fin ? Est-ce qu'on peut absolument anticiper des conséquences ? Est-ce que nous sommes les maîtres du temps ? L'avenir est contingent, il est imprévisible. Et si vous prenez les conséquences à long terme d'un acte, eh bien, même un crime peut apparaître comme bon. D'ailleurs, remarquez que c'est un des aspects de la doctrine libérale, c'est qu'un acte mauvais peut avoir des conséquences positives sur l'ensemble de la société, etc. Vous vous souvenez, ce que je vous ai dit au début. Donc, si je reprends l'exemple que je vous ai dit, j'ai 500 francs avec moi, qu'est-ce que j'en fais ? D'après l'éthique singerienne, eh bien, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi en faire. Quand je vous parle d'une paralysie de l'action, parce que je devrais anticiper toutes les conséquences relatives à ma dépense. Je devrais d'abord connaître toutes les situations des proches et des lointains pour savoir qui serait le plus bénéficiaire ou le mieux bénéficiaire de mon action pour optimiser, si vous voulez, la satisfaction totale. Mais c'est impossible. C'est littéralement impossible. On est dans une éthique qui a essayé de sortir des grands principes, qui s'est voulu minimal, mais qui aboutit d'une part à poser un sujet de l'action complètement improbable, impossible. Il n'y a plus personne qui est poussé à agir, mais en plus qui, même lorsqu'il voudrait agir, se trouve paralysé, parce qu'il n'a pas l'aptitude à prendre en compte tous les paramètres qui sont en jeu. Alors, on va mettre un aspect, on pourrait donner une réduction à son principe, on pourrait dire, vous agissez en fonction de ce que vous savez de la situation. Mais ce que vous savez de la situation, c'est-à-dire uniquement en fonction des informations que vous avez. Mais à ce moment-là, ce n'est plus un point de vue objectif. Et dès lors, vous voyez, tout semble s'effondrer ici. Donc, l'éthique utilitariste est une éthique qui, d'une certaine façon, lorsqu'elle devient celle de Singer, avec cette optique de l'optimum du bonheur collectif, posée par chaque action, aboutit à une incapacité à agir. On pourrait aller plus loin encore et s'interroger sur l'essence même de l'intérêt. Vous savez, les utilitaristes posent l'intérêt, nos actions sont toujours motivées par l'intérêt. Donc en phase 2, vous avez des gens qui ne sont pas plus intelligents, je veux dire, qui disent « mais donc l'action bonne, c'est l'action désintéressée ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le désintéressement n'est pas au contraire un des principes de l'orgueil? Je ne dois rien à personne et j'agis de ma propre initiative sans avoir besoin de toi. Ouais, ça c'est très douteux. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt? Est-ce que l'intérêt, vous voyez, on doit le concevoir de manière égoïste. Est-ce que l'intérêt n'est pas finalement quelque chose qui est profondément mystérieux? D'ailleurs, dans le intéressé, c'est un être qui se joue entre, qui affirme le fait que j'ai besoin de l'autre et que je ne me réalise que par un autre aussi. Est-ce qu'il ne s'agit pas de montrer que l'intérêt est finalement aussi beaucoup plus mystérieux que ne l'entendent les utilitaristes? Vous voyez? En tout cas, on voit à la fois l'ambition de ce type de pensée, ses résonances avec le monde contemporain, mais aussi les impasses qu'elle impose, si ce n'est à laisser tout à un calcul complètement arbitraire qui serait fait par des ordinateurs.